Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 12 septembre 2021. Nous avons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Aucune résolution anti-iranienne ne sera votée au Conseil des gouverneurs de l'AIOA. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. De ce journal, le PGAC et la politique infructueuse américaine, Téhéran refuse de transmettre les images de ces sites à l'AIOA. L'aéroport international d'Erbil en Irak qui abrite les militaires US cible d'une attaque au drone. Et puis les Palestiniens déclenchent une grève à Jenin en Cisjordanie occupée en guise de solidarité avec les prisonniers palestiniens évadés. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Une source bien informée a déclaré à Presse TV qu'il n'y aurait aucun changement dans la politique iranienne de l'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIOA aux caméras sur les sites nucléaires iraniens. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est arrivé samedi à Téhéran à la tête d'une délégation de haut rang pour s'entretenir avec le nouveau patron de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami. Cette source bien informée a rejeté les informations publiées par des médias occidentaux selon lesquelles l'Iran aurait accepté d'accorder à l'agence viennoise l'accès à ses caméras sur ses sites nucléaires. La source a souligné que les pourparlers avec Grossi n'incluraient que la réparation et la maintenance de certains des équipements de surveillance de l'AIOA. L'Iran a restreint l'accès à l'agence aux caméras dans le cadre de ses réductions d'engagement liées à l'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom officiel du PGAC, Plan Global d'Action Conjoint. Téhéran a pris cette décision en réponse à l'échec des autres signataires à respecter leurs obligations envers l'Iran liées au pacte multilatéral après le retrait unilatéral des États-Unis du PGAC. Les évolutions interviennent au moment où les pourparlers visant à relancer le PGAC à Vienne sont restés au point mort. Téhéran a exhorté Washington à cesser de recourir systématiquement aux sanctions et a accusé le gouvernement de Joe Biden d'adopter une stratégie sans issue contre l'Iran, tout comme son prédécesseur républicain Donald Trump. L'accès de l'AIOA aux enregistrements de ces caméras de surveillance installées dans les installations nucléaires iraniennes, autorisées autrefois par Téhéran, était dans le cadre des mesures volontaires de transparence de l'Iran. Le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi est arrivé ce dimanche dans la capitale iranienne Téhéran pour un voyage d'une journée afin de s'entretenir avec de hautes autorités iraniennes. Le président Ebrahim Raisi a officiellement accueilli le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi, arrivé à Téhéran à la tête d'une haute délégation. Il s'agit de sa première visite depuis que Seyed Ebrahim Raisi a pris ses fonctions il y a plus d'un mois. Les deux parties devraient discuter des questions économiques et politiques bilatérales. Au menu également la sécurité régionale et les relations irano-saoudiennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian s'est rendu à Bagdad fin août pour assister à un sommet régional. Lors d'une rencontre avec le premier ministre irakien, le très haut diplomate iranien avait déclaré que sa participation au sommet signifiait la détermination de la République islamique d'Iran à soutenir l'Irak. Pour sa part, Al-Kazimi avait qualifié de stratégique les relations Téhéran-Bagdad et salué le rôle constructif de l'Iran dans les évolutions irakiennes régionale. Une flottille de la marine iranienne est rentrée chez elle après avoir accompli sa mission en haute mer. Les navires de la marine sont arrivés dimanche matin dans la ville portuaire de Bandar Abbas, au sud de l'Iran, et ont été accueillis par des autorités militaires de haut rang. Le commandant de l'armée iranienne, le général de division Abdurrahim Moussavi, était présent à la cérémonie. Il a félicité les membres d'équipage de l'armada iranienne pour avoir accompli leur mission historique avec succès. Le général de division a rappelé que la flotte navale avait effectué sa mission dans les pires conditions climatiques et au milieu des campagnes politiques et de la guerre psychologique de l'ennemi. Il a déclaré que la mission historique avait été accomplie grâce à la prudence, aux connaissances et à la bravoure de la marine et sous les directives du leader de la République islamique d'Iran. Hier, l'honorable Ayatollah Khamenei a pour sa part félicité le commandant de l'armée de mer d'Iran pour le retour historique et honorable de la 75e flotte de la marine iranienne de sa mission navale dans les eaux de l'océan Atlantique. Le Croissant Rouge iranien crée un laboratoire de diagnostic de coronavirus au Kenya, une unité d'examen clinique et de laboratoire de diagnostic de COVID-19 a été mise en place au Centre de santé du Croissant Rouge iranien au Kenya. Le Croissant Rouge iranien, suite à son plan de l'amélioration de la qualité des services médicaux au Centre de santé de la République islamique d'Iran au Kenya, a lancé un centre de diagnostic initial et du traitement des patients atteints de COVID-19. Le Croissant Rouge iranien a également offert un atelier de 3 jours de formation théorique et pratique aux médecins, aux infirmiers ou aux techniciens de laboratoire en partenariat avec le ministère de la Santé au centre de santé. 3 roquettes ont visé samedi l'aéroport international d'Erbil dans le nord de l'Irak où stationnent les forces militaires américaines. Un communiqué de la force antiterroriste kurde a déclaré que l'attaque avait été menée à l'aide de drones piégés chargés d'explosifs. Les forces de sécurité du Kurdistan irakien avaient auparavant fait état d'au moins 3 tirs de roquettes à proximité de l'aéroport qui abrite des militaires américains. Rien n'a filtré pour le moment sur d'éventuelles pertes ou blessés ou encore dégâts matériels. Des témoins oculaires disent avoir entendu au moins 6 explosions dans la région. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques contre les forces américaines en Irak. L'aéroport de la capitale de la région semi-autonome kurde a été attaqué à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée. Israël a mené des nouvelles frappes aériennes sur la bande de Gaza, ciblant plusieurs zones au sud du territoire palestinien victime d'un blocus illégal et inhumain israélien depuis 2007. Les avions de combat du régime sioniste ont tiré au moins 6 missiles sur Rafah, au sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne prétend avoir ciblé des positions appartenant au mouvement de la résistance palestinien Hamas. Israël dit que les raids aériens sont en guise de représailles aux roquettes et aux ballon incendiaire lancé depuis la bande côtière. Aucune indication officielle sur d'éventuelles pertes humaines ou matérielles n'était disponible dans l'immédiat. Sachez également que les Palestiniens ont déclenché une grève dans la ville occupée de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, en solidarité avec les prisonniers évadés ciblés par le régime israélien. Le mouvement de grève intervient après que la fuite de 6 Palestiniens d'une prison ultra-sécurisée israélienne a entraîné une chasse à l'homme massive menée par le régime de Tel Aviv dans la région. 4 des 6 Palestiniens qui s'étaient enfuis ont été capturés dans la nuit de vendredi à samedi dans le nord d'Israël, quelques jours après leur évasion spectaculaire, faisant d'eux des héros et suscitant un profond sentiment d'humiliation côté israélien. En réaction, les forces de répression israéliennes ont eu recours à de nouvelles attaques et sont même allées jusqu'à arrêter les membres de la famille et de proches des évadés. Deux autres prisonniers sont toujours activement recherchés. L'affaire qui enflamme les esprits risque ainsi de provoquer une déflagration de violence et un nouveau conflit. Les groupes de la résistance palestinienne ont condamné la chasse à l'homme, affirmant que ces développements signalent une nouvelle série de conflits explicites avec le régime d'occupation. Enfin, les États-Unis ont déclassifié un premier document qui renforce les soupçons autour de l'implication du gouvernement saoudien dans les attentats du 11 septembre. Le document, copieusement expurgé, détaille le soutien logistique fourni par un responsable consulaire et un employé du renseignement saoudien à au moins deux agents d'Al-Qaïda impliqués dans le détournement d'avions de ligne utilisés dans les attaques. L'aide comprenait des traductions, des voyages, du logement et du financement, selon la note de FBI. Des membres du gouvernement saoudien sont depuis longtemps soupçonnés d'être impliqués dans les attentats. Réagissant au rapport, l'ambassade saoudienne à Washington DC a une fois de plus nié le rôle de Riyad dans les attentats. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Aucune résolution anti-iranienne ne sera votée au Conseil des gouverneurs de l'AIOA. Contrairement à certaines spéculations des médias occidentaux, selon lesquelles une résolution anti-iranienne pourrait être publiée lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIOA, une telle question n'est pas à l'ordre du jour. La prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique est prévue le mardi 13 septembre à Vienne. Auparavant, certains médias occidentaux avaient évoqué la possibilité d'une résolution anti-iranienne lors de la réunion de mardi, selon un récent rapport du directeur général de l'agence, Raphaël Grossi. La nouvelle parvenue indique cependant qu'une telle question n'a pas été soulevée et qu'une résolution contre l'Iran n'est pas à l'ordre du jour du Conseil des gouverneurs de l'AIOA. Pendant ce temps, Mikhaïl Ulianov, représentant de la Russie auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique basée à Vienne, a tweeté que la Russie voterait contre une résolution adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. À noter que Raphaël Grossi est arrivé samedi à Téhéran pour rencontrer Mohammad Eslami, le nouveau chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, ce dimanche, pour discuter des problèmes entre l'Iran et l'AIOA.
Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 11 septembre 2021. Le régime israélien se trouve toujours sous le choc après l'évasion héroïque de 6 prisonniers palestiniens qui se sont évadés de la prison de haute sécurité de Gilboa. Depuis plusieurs jours, des perquisitions et des recherches sont en cours dans des zones et villages à proximité de la prison israélienne et parallèlement, des manifestations sont organisées à la fois en Cisjordanie occupée, mais aussi dans la bande de Gaza en solidarité avec les prisonniers évadés. Selon de nombreux analystes, là, il s'agit d'une humiliation, d'un échec total pour le régime israélien, un échec dont les effets se font toujours sentir au niveau sécuritaire, politique et médiatique. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette nouvelle intifada, l'intifada des prisons, ses conséquences et ce fiasco, cet échec qui continue en effet toucher à l'entité israélienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
En allusion à l'évasion de 6 détenus palestiniens d'une prison de haute sécurité israélienne, Abdel Bari Atwan, rédacteur en chef du journal en ligne Rai Al-Youm, a prévenu sur son compte Twitter que les sionistes devaient s'attendre à de grandes surprises. Le processus d'évasion de 6 prisonniers palestiniens a cependant créé une grave crise au sein du régime usurpateur de Quds, et leur élimination peut déclencher une nouvelle intifada. S'ils traversent les frontières et se rendent en Syrie, au Liban ou à Gaza, cela portera un double coup mortel à Israël. Ce sont des génies de la planification et chacun de leurs mouvements est calculé et ils sont supérieurs à l'ennemi. Nous prévoyons de grandes surprises, lit-on dans le journal. Abdel Bari Atwan affirme également dans un article intitulé « Un coup fatal au prestige du projet sioniste et de son système de sécurité » que l'opération a atteint tous ses objectifs militaires, sécuritaires et psychologiques. Pour le 5e jour consécutif, les agents du régime israélien sont toujours à la recherche des 6 prisonniers qui se sont évadés de la prison de Gilboa, connue sous le nom de coffre-fort. Les Palestiniens continuent à célébrer cette évasion considérée comme une victoire et elle a ébranlé le régime sioniste et montré que la sécurité d'Israël est faible et que la volonté de la résistance peut la vaincre. Les médias sociaux palestiniens ont été inondés de photos des prisonniers, les qualifiant de héros palestiniens. Pour beaucoup, l'évasion de la prison symbolise une libération des chaînes de l'occupation et une lumière au bout du tunnel. Selon les rapports israéliens, les prisonniers ont creusé l'entrée du tunnel à partir du sol en béton sous le levier de leur cellule à l'aide d'une cuillère rouillée qu'ils auraient cachée derrière un poster. Après l'évasion, les autorités israéliennes ont déployé des effectifs aux principaux points de contrôle et dans les zones où les prisonniers auraient été aperçus.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Maître Elie Hatem, juriste international et analyste politique. Et depuis Damas, Madame Aïssa Midani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Midani, nous allons commencer l'émission avec vous. Bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à Maître Elie Hatem, à l'ensemble de l'équipe Presse TV et à tous vos téléspectateurs.
Madame Midani, l'actualité palestinienne, régionale, même internationale, est dominée ces jours-ci par cette annonce de l'évasion héroïque des 6 prisonniers palestiniens. Une évasion sans précédent, une victoire héroïque pour la résistance palestinienne. Quel premier regard portez-vous sur cet événement et dans quelle mesure cet événement constitue une humiliation flagrante pour le système sécuritaire, politique et médiatique de l'entité sioniste?
Tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une victoire héroïque qui est vraiment dessinée par ces héros qui se sont évadés de cette prison. Après un travail de cette prison de haute sécurité qui constitue la fierté des Israéliens, du geôlier israélien et la fierté de l'État policier israélien, la fierté de l'État d'occupation qui est une entité d'occupation et d'usurpation de tous les droits israéliens. Et donc, ils ont été mis à l'épreuve par ces 6 prisonniers, ces 6 héros qui travaillent pour leur évasion depuis 8 mois et qui ont creusé un grand tunnel de plusieurs dizaines de mètres avec une cuillère rouillée et qui ont dissimulé aussi les débris, les gravats. Et on ne sait quel moyen. Donc c'est un travail déjà de génie et de pensée, de planification et puis de dissimulation d'un côté. De l'autre côté, c'est un grand travail de longue haleine qui montre que la volonté d'acier des Palestiniens dépasse de loin toutes les geôles israéliennes et dépasse de loin toutes les mesures de haute sécurité des Israéliens. Il est certain, je comprends que de toute façon, les Israéliens, l'État, l'ensemble de l'État, l'ensemble des structures, l'ensemble des institutions dites israéliennes de cet État fantoche, soient complètement ébranlés, puisque déjà, à chaque fois qu'ils présentent quelque chose et les Palestiniens le mettent en échec et montrent sa fragilité devant leur volonté d'acier et son accessibilité de toute façon face à leur volonté de liberté, de libérer leur pays et puis leur volonté de s'affranchir de cette occupation horrible, féroce et complètement barbare, je dirais. Donc, en fait, ils sont bien perturbés et puis, bien sûr, ça provoque de ce fait des gros problèmes, des gros troubles au sein de l'ensemble de l'administration, à la fois l'administration des prisons, de l'État, etc., et qui commencent aussi à se renvoyer les attaques et les accusations. Au-delà de ça, moi je pense que c'est très très important aussi de montrer que cette volonté a aussi réuni à nouveau la totalité du peuple palestinien autour de ces grands héros et donc qui le message c'est dire à tous les Palestiniens nous sommes là pour nous battre pour nos libertés, pour mettre ce geôlier dehors, en fait, ce geôlier qui n'est rien d'autre que cet État usurpateur fantoche, mais aussi il faudra s'unir. Et aujourd'hui, le mouvement qui a été annoncé et qui a commencé par l'ensemble des groupes palestiniens, qui est ce mouvement de soutien et de solidarité infinie avec l'ensemble des prisonniers, le mouvement qui a aussi ébranlé la totalité des prisons, en fait partout les prisons en Israël, dans cet état fantoche. Donc là aussi, ils peuvent s'attendre effectivement à des lendemains qui ébranle encore plus cet État. Et moi, je dirais, la fin d'Israël est plus proche que jamais aujourd'hui.
Merci infiniment pour ces précisions. Madame Edani, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Paris Maître Elie Atem, juriste international et analyste politique. Maître Atem, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, à Madame Midani, à vos téléspectateurs. Et puis, merci de votre invitation.
Maître Atem, alors deux événements en quelques mois après l'opération réussie de l'épée de Rhodes qui a mis au défi la supériorité aérienne en effet de l'entité israélienne. Le récent événement, cette évasion de six prisonniers qui là aussi a brisé le mythe d'invincibilité en effet du régime sioniste. Dans quelle mesure cet événement, surtout ce récent événement, constitue en effet un tournant dans la lutte de la résistance palestinienne contre l'occupation israélienne? En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui, on assiste au commencement, au début d'une nouvelle intifada, celle des prisons dans les territoires occupés?
Écoutez, tout d'abord, si je me permets, j'ai entendu depuis le début de cette émission des choses qui ne sont pas du tout claires quand vous parlez de prisonniers et quand vous parlez d'État et quand vous parlez de force et quand vous parlez d'Israël. Il faut remettre les choses clairement. Il ne s'agit pas de prisonniers. Il s'agit de personnes, de résistants, d'otages qui ont été détenus par des forces terroriste. Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle d'Israël et de l'armée israélienne, il faut rappeler tout d'abord qu'il s'agit d'un mouvement terroriste. C'est le Léry, le Haganah, qui a formé ce qu'on appelle une entité artificielle, qui a été reconnue sous la pression de certains lobbies internationaux à une époque particulière, qui était celle après la Seconde Guerre mondiale, et on a imposé ce qu'on appelle cet État d'Israël, qui, comme tout le monde le sait, est artificiel, avec un regroupement de populations qui viennent de partout et qui sont aujourd'hui presque, je dirais, majoritairement contre cette entité, contre ce régime. Donc, qui sont ces personnes qui ont été détenues? Ce sont des résistants qui ont le droit à l'autodétermination et à la libération de leur pays. Par analogie, on peut rappeler le mouvement de résistance en France contre les occupants nazis ou allemands, si vous voulez, de la France, qui prenaient des risques pour quitter en fait leur centre de détention. Il ne s'agit pas de prison, il s'agit plutôt de centre de détention, de maison de détention, et je ne parle pas de prison. Pourquoi je ne dis pas de prisonnier? Parce que pour être prisonnier, en plus, il faut être jugé par un tribunal avec un procès équitable et qui soit, dans ce cas-là, détenu par une prison qui a, le véritable sens donc, de prison. Or, ici, il s'agit de résistants, des gens qui ont mené une lutte pour la libération donc, de leur pays et qui ont été détenus et qui ont été pris en otage et mis dans ces centres-là de détention. Et ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé le moyen de pouvoir se libérer. Donc, ils n'ont pas échappé de prison, ils se sont libérés. Donc, si vous voulez, ce sont problème de terminologie qui est assez important. Ce qui démontre une chose, c'est toujours cela, nous l'avons vu d'ailleurs en France, sous l'occupation allemande, et en Palestine, avec cette occupation donc, de cette entité qui a imposé un modèle, un régime qui est totalement artificiel, qui est racialiste, qui est celui de la création d'une entité sioniste qui a été élaborée par le judaïsme politique et dont le sionisme fait partie d'ailleurs du judaïsme politique en général et qui a créé des institutions qu'elle a obligées par la force et par le chantage et par le terrorisme intellectuel des puissances internationales à les reconnaître. Et à chaque fois qu'on essaye de mettre en doute ces institutions et ce régime, on est traité d'antisémite et j'en passe. Donc aujourd'hui, il y a un sentiment populaire dans la population palestinienne de vouloir libérer leur pays où ils sont vraiment brimés. Et quand je vois que la population aujourd'hui, quand elle a vu cette libération de ses otages, elle reprend confiance. Parce qu'il faut dire une chose, malheureusement, les Palestiniens ont été en quelque sorte dépassés, et je dirais même déprimés, et ils ont baissé leurs armes, les armes de la résistance nationale, avec cette sorte, je dirais, de normalisation avec leurs propres occupants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu et senti que la société internationale les a totalement donc délaissés, y compris leurs frères du monde arabe qui malheureusement aujourd'hui avec la poussée des mouvements islamistes qui sont stipendiés par l'islam politique et stipendiés par le judaïsme politique où ils se retrouvent tous les deux et cette volonté de la destruction du monde arabe et la création d'une umma islamia, donc un monde musulman qui entre en clash si vous voulez avec cette notion de nationalisme. Et c'est la raison aujourd'hui pour laquelle la résistance palestinienne, l'âme de la résistance palestinienne est en train de retrouver un espoir de pouvoir de nouveau continuer cette lutte-là en démontrant de l'autre côté, effectivement, comme l'a très bien souligné Madame Midani, une sorte donc de défaite parce que c'est cette puissance ou cette force d'occupation et cette entité qui a été imposée, elle retrouve même au sein d'elle, chez elle, un mécontentement quand on voit cette population qui est venue donc de différents pays du monde, il se rend compte qu'il faut quand même vivre avec son temps et on ne peut pas imposer à un autre peuple la situation dans laquelle il se trouve. Et je parle du peuple palestinien, de Gaza et d'autres. Et puis surtout même dans les institutions, entre guillemets, et dans les lois, entre guillemets, constitutionnelles de cette entité israélienne où on impose des règles racialistes quand je pense à l'obligation de la judaïté. Et puis surtout cette décision de la Cour suprême où on peut passer des tests ADN pour faire preuve d'appartenir à une entité. C'est comme si je vous dis, peut-être en France par exemple, il faut passer un test ADN pour savoir si on est français ou pas. Donc tous ces principes, si vous voulez, qui sont internationalement condamnables et qui ressemblent en quelque sorte à cette théorie mortifère, même nazie, qui a voulu racialiste, qui était fondée sur ces principes qui ont conduit au désastre de la Seconde Guerre mondiale, ils sont en train d'être repris.
Merci,
paradoxalement, par cette entité-là. Et c'est pour cette raison que je pense qu'aujourd'hui, on va vers la fin de cette conception racialiste du système et du modèle imposé à Merci. Cette région du monde, à ce pays, la Palestine, avec cette occupation par ce régime sioniste.
Merci infiniment, Maître Atem, pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Idani, alors Maître Atem l'a souligné aujourd'hui, l'âme de la résistance palestinienne, en effet, retrouve espoir. Plus précisément, dans quelle mesure, justement, aujourd'hui, cet événement et les événements similaires, d'abord, permettront non seulement aux Palestiniens, mais aussi aux frères arabes et musulmans des Palestiniens de tenir tête, d'entrer dans une nouvelle phase de confrontation avec l'entité sioniste. Et puis, quel sera l'impact de ces événements, justement, en Palestine sur la poursuite de la résistance contre l'occupation israélienne, je veux dire plus précisément cette évasion des figures héroïques, en effet, de la résistance.
Écoutez, c'est très important, l'impact. Déjà, on peut rappeler quand même la grande victoire du mois de mai de Saïf al-Quds, en fait, et puis son impact sur les populations, les peuples arabes, en fait, en général. Sur la totalité du peuple palestinien en particulier, puisque cette victoire et cette bataille, je dirais, a réuni et rassemblé la totalité du peuple palestinien que les Israéliens essayent de diviser depuis des décennies entre les Palestiniens des territoires occupés en 48, les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Cisjordanie, etc. Et là, on a vu quand même que tout le monde était uni dans cette lutte fantastique et qui a aussi emporté donc cette grande victoire de Saïf al-Quds à la fin du mois de mai 2021, donc mai-juin 2021. Aujourd'hui, cette victoire des détenus, et je remercie Maître Atem d'avoir effectivement précisé l'ensemble des concepts, parce qu'on a tendance à parler de prisonniers, etc. Mais en fait, ce sont effectivement des militants de la liberté. Et donc, le fait qu'ils se soient donné la liberté eux-mêmes et en faisant cette action, en partant de cette prison qui est la plus sécurisée, ils ont aussi enregistré une nouvelle victoire qui réunit autour d'elle aussi à nouveau la totalité du peuple palestinien, mais aussi la totalité des peuples de l'axe de la résistance, les peuples yéménites, libanais, syriens, les peuples palestiniens de l'ensemble de des différents exils aussi, et puis le peuple irakien, Bahreini, etc. Et on voit que ça va passer effectivement. Bien sûr, le peuple algérien aussi, tunisien, maghrébin, Et on voit qu'il y a effectivement à nouveau un élan qui se fait pas seulement sentir, mais qui se fait sentir, entendre et voir sur le sol au niveau des peuples arabes. Quant au gouvernement et les régimes qui ont effectivement tendance à passer des accords non seulement de normalisation, mais de pacte avec l'ennemi israélien, je pense qu'ils ont intérêt à trembler parce que leurs jours deviennent comptés, parce que ce sont leurs peuples qui vont régler leurs comptes. Et ces peuples qui étaient bâillonnés jusqu'à maintenant, d'ailleurs là, y compris le peuple saoudien qui est bâillonné par la force de l'épée et des têtes coupées. Je rends hommage au jeune qui a été exécuté, qui a été tué, assassiné par ce pouvoir saoudien criminel pour avoir soutenu des résistants bahreïni, qui a été tué hier, hein, en fait, par décapitation. Et donc, en fait, les peuples vont se réveiller, et n'acceptent plus cet état de normalisation des relations avec l'État d'Israël, cet État fantoche, avec lequel tout le monde cherchait, tous les régimes, alliés aux Américains, chercher à,
merci,
effectivement, à s'allier.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître Hatem. Maître Hatem, il nous reste 3 minutes. Et pour vous, quel sera l'impact justement de cette victoire, de ce récent événement sur la poursuite de cet élan, en effet, du monde musulman contre l'occupation et l'usurpation israélienne?
Il y a un impact surtout psychologique sur l'opinion publique, sur la population, sur la résistance en fait. Cette résistance palestinienne, il faut rappeler une chose, elle a baissé ses armes depuis quelques années, depuis je dirais même les accords donc, d'Oslo, avec cet espoir de pouvoir retrouver un modus vivendi avec l'entité sioniste qui a occupé la plus grande partie donc, de la Palestine. Mais ça a été, malgré tout, malgré toutes ces promesses, c'était totalement absurde parce que nous avons vu que cette entité n'a rien voulu céder. Elle n'a même pas permis, par l'intermédiaire de l'exercice d'un terrorisme psychologique international exercé sur les grandes puissances et les grands États et les grands décideurs, cette obligation de ne pas reconnaître aux Palestiniens le droit d'avoir un véritable État. Et nous avons vu même, c'est que simplement on leur a donné ce nom, cette dénomination d'une autorité palestinienne. Et nous avons vu que tout a été fait pour pousser, si vous voulez, pour étrangler cette population qui n'a, vis-à-vis de la société internationale, malgré toutes les décisions du Conseil de sécurité, toutes les résolutions de l'Assemblée générale, également donc des Nations Unies, Israël n'a respecté aucune donc, de ces décisions. Et nous avons vu que sa population palestinienne a été complètement, je dirais, donc, déprimée, ce qui a poussé au fameux mouvement donc, Intifada. Nous avons vu également que ces mouvements se sont estampés. Aujourd'hui, cette opération de libération donc, de ces otages qui ont été détenus par ces maisons de détention des groupes terroristes et israéliens, a donné de nouveau cet espoir à la population de faire revivre de nouveau cette résistance sur place, cette résistance, je dirais même pacifiste, parce que nous voyons que la population ou les Palestiniens sont démunis, n'ont pas donc des armes d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez donc une puissance qui a des matériels, un arsenal militaire super puissant et qui exécute donc des actes qui sont complètement condamnables. Je pense par exemple à ces pauvres petits-enfants qui sont de temps en temps, par soi-disant des mouvements donc, de militaires, brûlés vivants donc par les, ces groupes militaires israéliens. Or, aujourd'hui, si vous voulez, toutes ces images se sont estompées, mais cet événement-là vient réveiller
le
mouvement donc, de résistance pour essayer donc, de nouveau de reprendre le flambeau et espérer une libération nationale et espérer une solution qui permet à ce peuple de vivre dans un État comme l'ensemble des populations du monde.
Maître Eliatem, juriste international, analyste politique depuis Paris. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Le ministère algérien des Affaires étrangères a réaffirmé sa ferme position sur le soutien à la Palestine et son opposition à l'intervention étrangère en Syrie et en Libye. Le ministère algérien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamara s'était rendu au Caire pour assister à une réunion régulière de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le communiqué indique que l'Algérie souligne lors de la réunion qu'elle s'appuie sur une action arabe commune basée sur de nouveaux principes et dimensions qui répondent aux besoins actuels. Le communiqué indique que les questions et le développement politique en Palestine, en Syrie, en Libye, au Yémen, ainsi que la lutte contre le terrorisme et la libération du Moyen-Orient des armes de destruction massive sont à l'ordre du jour de la réunion. L'Algérie participe à la réunion pour réitérer sa ferme position sur les questions arabes, notamment son soutien à la Palestine et son rejet à toute intervention étrangère dans la région. Covid-19, le CDC Africa dénonce les promesses vides sur les vaccins. L'autorité sanitaire de l'Union africaine s'en est pris jeudi aux dirigeants mondiaux qui n'ont pas honoré leur promesse de partager les vaccins contre la COVID-19 avec les populations les plus pauvres au moment où l'Afrique fait face à une résurgence de la pandémie. Partout en Afrique où le chiffre 200 à 1000 morts a été dépassé mardi, le nombre de cas augmente à un rythme alarmant. Plus de 40 pays connaissent une troisième vague et 6 sont déjà aux prises avec une quatrième, alors que la vie reprend son cours normal dans de nombreux pays riches grâce à des taux d'immunisation élevés. Seulement 3,18% des Africains ont été complètement vaccinés sur un total de 1,3 milliard d'habitants. Ces retards s'expliquent par la pénurie de doses disponibles, mais aussi par la défiance d'une partie des populations envers les vaccins. Nous ne pouvons pas continuer à politiser cette situation en faisant des déclarations qui ne débouchent pas sur des engagements fermes, a déclaré le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Les promesses ne font pas pleuvoir le vaccin, a-t-il souligné. La Tunisie et la Libye parviennent à un accord de principe sur la réouverture de leurs frontières. Le président tunisien Kais Saied et le chef du gouvernement d'Union nationale libyen Abdelhamid Zaibar sont parvenus à un accord de principe sur la mise en place d'un protocole commun pour reprendre le trafic terrestre et aérien aussi rapidement que possible, a déclaré la présidence tunisienne dans un communiqué. Accompagné des ministres de la Santé, de l'Intérieur et d'autres membres de haut niveau de son gouvernement, M. Zaibar est arrivé jeudi à Tunis et a été reçu par le président Saïed au palais présidentiel de Carthage. Les deux parties sont convenues de renforcer la coordination bilatérale entre les ministères de la Santé et de l'Intérieur des deux pays afin de mettre en place un protocole commun pour reprendre le trafic terrestre aérien aussi rapidement que possible, a indiqué la présidence tunisienne dans le communiqué. Toujours selon le communiqué, cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les liens forts de fraternité et les relations fructueuses de coopération entre la Tunisie et la Libye dans divers domaines et de réaffirmer l'unité de destin et la cohérence du développement, de la stabilité et de la sécurité dans les deux pays. Le chef de l'État tunisien a également évoqué avec le Premier ministre libyen les efforts consentis par les autorités tunisiennes pour mieux contribuer à la reconstruction de la Libye ainsi que la nécessité d'intensifier la coordination et les échanges d'informations pour sécuriser la frontière et lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suspendu la Guinée en proie à un coup d'État militaire selon un communiqué publié mercredi par la CEDEAO. La décision a été prise lors d'une réunion virtuelle de l'organisation convoquée par le président de cette organisation, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, pour discuter des développements politiques en Guinée. L'autorité a exprimé sa profonde préoccupation quant au développement politique en République de Guinée à la suite du coup d'État du 5 septembre 2021 et à leurs conséquences sur la paix et la stabilité régionale, indique le communiqué. Le bloc régional a exigé le rétablissement immédiat d'un régime civil en Guinée, ajoutant que les forces de défense et de sécurité doivent maintenir une posture constitutionnelle. Il a réaffirmé sa ferme opposition à tout changement politique par des moyens anticonstitutionnels et a condamné dans les termes les plus forts le coup d'État. Le gouvernement ivoirien durcit la loi sur la cybercriminalité. L'arsenal législatif contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire va se durcir face à la montée de menaces dans le cyberespace, a annoncé le gouvernement. Il a ainsi annoncé, à l'issue du Conseil des ministres, avoir adopté un projet de loi modificatif qui durcit la répression des actes de plus en plus nombreux de cybercriminalité à travers les nouveaux médias sociaux en doublant le quantum des peines présentement encourues par les auteurs de ce type d'infraction. Les peines maximales d'emprisonnement liées notamment aux atteintes à la dignité humaine, à l'honneur, à la propriété intellectuelle et à tous les autres agissements illicites au moyen des technologies de l'information et de la communication, passer du simple au double, a-t-il précisé dans son communiqué. La CAAE envisage des projets d'infrastructures communs pour stimuler le commerce. Le bloc commercial de la Communauté d'Afrique de l'Est prévoit d'accélérer la mise en œuvre de projets d'infrastructures communs et de stimuler le commerce intra-régional, a affirmé le secrétaire principal du département d'État kényan pour, en fait, la CAE. Les projets de transrégionaux de routes, de chemins de fer et de réseaux électriques faciliteront la circulation des marchandises au sein du bloc économique, a-t-il indiqué lors d'une réunion à Nairobi. Les projets d'infrastructures communes catalyseront la création de chaînes de valeur régionales qui amplifieront le commerce de matières premières et des produits finis dans la région, a dit M. Dessy. Les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est sont le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. Les principaux projets d'infrastructures communes au sein du bloc comprennent le couloir de transport nord qui part du port de Mombasa au Kenya et s'étend à l'Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.